Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Donc, bienvenue à tous au volet de discussion du podcast Commerce Élite et on a la chance aujourd'hui de s'entretenir avec Pénélope Asselin-Forcier, directrice marketing de l'entreprise Oxio. Oxio qui est un fournisseur Internet qui a été acheté par Cogeco en 2023. Et Pénélope a depuis repris les rênes du marketing de l'organisation et va nous expliquer aujourd'hui comment elle envisage le futur avec Oxio et également comment elle a construit son équipe. Pénélope, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Merci à toi, Antoine, pour l'invitation. C'est vraiment un privilège d'échanger avec toi aujourd'hui. Puis je tiens à dire que vous avez un super projet avec le podcast.
Bien, je te remercie. C'est toujours, toujours flatteur de recevoir des commentaires de la sorte. Donc, je te remercie. Et Pénélope, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qui s'est déroulé dans la dernière année avec Oxio parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Toi, de ton côté, tu as dû reprendre les rênes du marketing de l'organisation, un type de marketing que tu n'avais pas nécessairement eu la chance de beaucoup faire dans le passé. Donc, je pense que ça va être très intéressant pour notre équipe aujourd'hui, pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui se disent comment bâtir vraiment une équipe de marketing numérique. Mais avant toute chose, peut-être tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé, donc où tu étais avant d'intégrer Oxio. Comment le processus s'est mis en place de ton côté?
Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis arrivée chez Oxio au moment de l'acquisition. Donc, ça fait déjà 11 mois. Donc, on approche notre premier anniversaire de cette belle histoire d'amour, je dirais, pour moi avec Oxio. Alors, avant ça, j'étais chez Cogeco et j'ai toujours un peu navigué dans l'univers des télécommunications. Puis, je gérais un peu là, des équipes marketing puis principalement du P&L. Fait que au moment, comment c'est arrivé un peu au moment de l'acquisition, ben comme toute acquisition finalement, il y a eu beaucoup de changements organisationnels. Alors je me suis retrouvée avec une équipe réduite. Il y a aussi eu de l'attrition qui s'en est suivie, ce qui est tout à fait normal. J'ai dû reconstruire toute l'équipe. Également, il a fallu qu'on redémarre toutes les activités. Donc on sait un peu comment que ça fonctionne les acquisitions. Il y a eu un petit ralentissement. Les équipes sont occupées à finaliser là le processus d'acquisition qui est quand même très 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 prenant pour une organisation. Donc c'était de repartir là la business, l'équipe, puis assurer la continuité des affaires. Je veux dire, je veux quand même mentionner que l'équipe qui était là précédemment, c'est une équipe extrêmement solide. Ils ont contribué au succès d'Oxio de manière phénoménale, l'équipe marketing. Alors, c'est vraiment des turbulences qui sont liées à l'acquisition. Donc, la priorité là pour moi à ce moment-là, c'est de me faire un plan de match. Donc, j'avais une vision qui se rapprochait de ce qu'eux avaient mis en place, mais j'avais une vision différente sur certains aspects. Donc, c'était vraiment de me plonger et de me faire une tête là-dessus. Mais le plus important, comme tu le dis, là, c'est qu'à ce moment-là, le défi qui m'a frappé un peu à retardement, c'est que c'était la première fois pour moi que je gérais une business 100% en ligne. Et j'avais un petit peu sous-estimé l'ampleur de la chose. Alors, je me disais, j'arrive avec un peu mon mindset de business traditionnel, je connais le marketing, mais gérer une business 100% en ligne, c'est très différent. Alors, ça a été un des plus gros challenges pour moi. Puis c'était un peu, quand tu m'as interpellée pour le podcast, je me demandais de qu'est-ce que j'allais te parler parce que je ne suis pas une experte marketing numérique à proprement dit, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant justement d'autres personnes qui sont dans cette situation-là, de partager mon histoire puis de les aider si ça leur arrive un jour à jumper dans une business 100%
en ligne. Et ça s'applique énormément parce que de plus en plus, on le voit, il y a une dynamique un peu qui s'inverse des deux côtés, c'est-à-dire beaucoup de gens qui étaient dans du marketing purement numérique s'intéressent et doivent aller dans une approche un petit peu plus traditionnelle, autant au niveau de la commercialisation qu'également de notre distribution. Il y a beaucoup de commerces qui sont en ligne qui maintenant vont avoir des points de vente. Et d'un autre côté, bien, il peut y avoir également l'inverse, ou est-ce qu'on vient d'un volet un petit peu plus traditionnel et qu'on s'intègre dans le volet du marketing numérique? Et je trouvais ça fascinant de prendre ton cas aujourd'hui et de pouvoir donner, décortiquer avec notre audience aujourd'hui qu'est-ce qui a pu se dérouler, quels sont les trucs et les astuces. Peut-être avant d'aller plus loin, Pénélope, dis-moi, Oxio, l'acquisition qui a été faite avec Cogeco, juste pour être certain, ça a été vraiment l'achat du fonds de commerce un peu. C'est les clients vraiment que Cogeco est allé chercher. Donc, à partir de là, fallait vraiment reconstruire un petit peu ce qui devait être fait par la suite, si je comprends bien, là.
Oui, exactement.
Parfait. Donc, au moins, on situe un peu l'audience par rapport à tout ça aujourd'hui. Donc, on revient à l'idée du podcast, reconstruire son équipe marketing. Tu l'avais déjà fait au niveau traditionnel. Là, tu veux attaquer le volet en ligne parce que historiquement, c'est là que vous avez fait votre meilleure commercialisation avec Oxio. C'est comme ça que vous alliez chercher vos clients. Par où on commence? Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui se disent « je dois bâtir mon équipe » ou « je dois commencer », comment tu t'y es pris?
Je dirais, si vous êtes comme moi, une marketeur qui vient d'un milieu un petit peu plus traditionnel, la première affaire, c'est de pas penser à votre structure d'équipe. Moi, c'est ça un peu le piège que j'ai fait. Je me dis « quel talent j'ai besoin? » C'est pas ça la première étape. La première chose, c'est vraiment de comprendre c'est quoi les défis d'affaires. C'est quoi les différences entre gérer une business qui est 100% en ligne, traditionnelle? C'est quoi les conditions de succès? C'est quoi les éléments qui vont faire une différence, qui vont créer une différenciation, qui va nous permettre de battre la concurrence? Comment ça fonctionne les canaux numériques? C'est quoi les principaux canaux? C'est quoi les défis? C'est quoi leur performance? C'est quoi les gros moteurs d'acquisition? En gros, là, c'est un gros deep dive dans les chiffres puis d'essayer de comprendre, la mécanique et les rouages. Donc, ça, c'est vraiment pour moi, ensuite de tout ça, tu peux trouver tes talents, mais c'est vraiment la première chose à faire. La deuxième chose aussi, qui est vraiment particulier dans mon cas, c'est que nous n'avons pas de promotion. Donc, je viens d'une industrie, les telcos, qui sont vraiment drivés par le prix. Donc, c'est vraiment difficile pour un marketeur quand tu n'as pas plusieurs canaux de distribution, que tu es 100% en ligne et que tu ne peux pas faire niveler le prix pour aller chercher des clients. C'est un autre défi, là. Alors là, c'est vraiment, encore là, ça revient à bien comprendre c'est quoi le modèle d'affaires, le contexte organisationnel. Et ensuite de ça, là, tu définis les talents. Puis le troisième défi, je dirais, que j'avais en lien avec ça, c'est que j'avais un faible budget. On est en mode startup, on doit optimiser la rentabilité. Donc, OK, quel talent que tu vas aller te chercher? Tu peux pas payer des grosses agences. Fait comment que tu fais pour finalement, tout ça. Donc, c'était un peu, je dirais, le casse-tête. Une fois que j'ai tout décortiqué ça, là, j'étais rendue à l'étape de me dire, OK, là, je sais c'est quoi que j'ai besoin dans mon équipe, je vais bâtir ma structure. Et là, évidemment, j'ai compris la complexité technique du numérique. Et ça, je l'avais pas vu. Alors, je n'avais pas vu la montagne aussi grosse qu'elle était. Et c'est là que j'étais chercher un growth marketing manager, un performance marketer, des consultants en stratégie numérique puis un data analyst qui se sont joints rapidement à l'équipe pour venir m'appuyer. Puis après ça, ben c'est de faire confiance à l'équipe et ses talents-là, mais c'est vraiment d'aller chercher ses talents et ce n'est pas les mêmes talents qu'on a en marketing traditionnel. Et ça aussi, c'était une révélation d'être vraiment là. Ne pensez pas que c'est les mêmes talents. Il faut vraiment aller s'entourer de ceux qui ont ces connaissances-là techniques.
Tu parlais de diagnostic, de s'attarder aux chiffres, de s'attarder aux mécanismes d'acquisition. Quelles ont été tes découvertes? Qu'est-ce qui fonctionnait bien? Qu'est-ce qui fonctionnait moins bien?
Ben, ça reste un peu confidentiel. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je dirais que moi, c'était vraiment au niveau, ce qui m'a le plus, où est-ce que j'ai le plus pivoté, c'est au niveau des opportunités d'affaires dans le Canada. Donc, tu sais, vous savez, Oxio, on est disponible à 12 millions d'adresses potentielles de Rimouski à l'île de Vancouver dans 6 provinces du Canada. Donc, tu sais, de vouloir un peu adresser le marché au grand complet, ça, c'est ce que j'ai fait pivoter, puis d'essayer de trouver vraiment les niches en utilisant les techniques du numérique, en regardant ces taux de conversion sur le web, d'où provient le trafic, quels sont les pockets de clients qui sont le plus en croissance que tu peux vraiment aller capitaliser dessus ou est-ce que tu vois que tu as une traction naturelle. Donc, de passer d'un mode un peu plus targeté, là, ça a été dans les choses que j'ai faites en premier là, pour faire pivoter.
Ouais. Et bon, tu as parlé de prix plus tôt. Tu viens des télécommunications, effectivement. C'est une guerre de prix au Québec, ailleurs, un peu partout. On veut s'assurer que le client soit capable de payer le moins cher possible parce que plus souvent qu'autrement, c'est ce que le consommateur consommateur va regarder en premier lieu. Mais là, tu peux pas jouer avec ça. Donc, comment qu'on s'y prend? Comment qu'on est capable d'ajuster le tir si on peut pas jouer avec le prix?
Ça, la grande question. je dirais que, le numérique, l'expansion des canaux numériques, c'est important, mais aussi tout le travail au niveau de la marque. Donc, d'aller se différencier par des stratégies de contenu, des stratégies de communication qui sont différentes. Donc, pour nous, par exemple, ça passe beaucoup par du storytelling, le blog, la création de contenu, les micro-influenceurs, faire exactement tout le contraire de ce que les big telco font. Donc, quand au Black Friday, ils parlent de prix, nous, on saisit le momentum pour aller de quoi. On a des bons deals toute l'année, puis que bon, on devrait pas avoir à chialer tout le temps pour avoir des meilleurs prix, par exemple. Fait que on va aller se différencier dans notre approche, tout en restant pertinent dans ces moments clés là de l'année. Mais chez Oxio, on est vraiment obsédé par le client, puis c'est aussi un des grands fondements du marketing. Là, je suis assez puriste dans mon approche. La clé, c'est de toujours rester proche de son client, peu importe, de le comprendre ses besoins, ses irritants, ses aspirations, puis d'être un partenaire qui ajoute de la valeur à sa vie. Donc, c'est comme ça que tu deviens pertinent, puis que tu te différencies en bout de ligne.
Donc, stratégie de contenu un petit peu plus, on pourrait dire traditionnelle qu'on voit sur Internet. On va travailler avec des influenceurs également, donc une approche qui est un petit peu davantage dans l'air du temps. Et jusqu'à maintenant, quelles ont été peut-être les révélations que tu as été capable de voir? Parce que là, ça fait quoi? Un an maintenant que tu es en charge du marketing chez Oxio? Oui. Quelles sont les révélations? Quels sont les bons coups, les ajustements que tu as été que tu as dû faire pour continuer à avoir du succès avec l'entreprise?
Les révélations, ça a été que tu sais, principalement, on peut faire beaucoup avec pas beaucoup d'argent en trouvant les bons petits trésors. Donc, tu sais, il y a des podcasts qui nous ont vraiment surpris, qu'on a commandité puis qu'on pensait pas avoir autant de succès. Il y a des posts organiques qu'on a fait sur nos réseaux sociaux qui ont généré des milliers d'impressions soudainement, vraiment de manière très étrange, qu'on sait pas pourquoi. Alors, c'est tout, on a essayé plein de tests, on a fait plein de choses pour trouver des nouvelles façons d'engager, d'aller chercher des clients. On a aussi découvert des nouveaux marchés. Puis quand on a trouvé ces nouveaux marchés-là, c'était comme, OK, là, ça marche de feu. Ils trippent sur notre marque. Les valeurs c'est vraiment, se rejoignent nous. Fait qu'on a trouvé des quartiers dans le Canada où est-ce qu'on avait énormément de succès. Et là, en fonction de tous ces succès-là, ben, c'est comme ça que notre plan de match a évolué finalement.
Et dis-moi, tu as parlé de commandite de podcast. J'aimerais élaborer un peu là-dessus. Comment vous
ça t'intéresse?
Je trouve que c'est une stratégie sur le podcast, paradoxalement, qu'on n'a pas entendu beaucoup de d'autres directeurs marketing. Et c'est quelque chose qu'on va évoluer de plus en plus. Il y a des micro-segments qui peuvent être très, très intéressants. Comment abordez-vous le tout? Comment trouvez-vous les podcasts? Comment vous essayez de vous positionner à travers tout ça?
Ouais, encore là, ça vient un peu avec la recherche là, consommateur, là, de se dire, OK, où notre cible, elle est, c'est quoi ses intérêts? Fait que là, c'est une première démarche. La deuxième démarche, c'est de se dire, où que tu ne verrais jamais un autre telco pour créer l'effet de surprise. Alors, ça, c'est notre deuxième démarche. Et la troisième démarche, c'est que tu en essaies une coupe, tu vois ce qui marche, puis après ça, une fois que tu en trouves un qui pogne, là, tu regardes les auditeurs qui ont regardé ce podcast-là, ils écoutent quoi d'autre? Fait qu'il y a des outils en ligne qui te permettent, tu sais, là, c'est toujours d'avoir des décisions basées sur les données, là, autant qu'il y a beaucoup de test and learn, je veux spécifier que tout ça, c'est backé par des données, puis on essaie toujours de prendre des décisions stratégiques sur les chiffres. Donc, là, ensuite de ça, c'est que tu creuses dans tes chiffres, tu creuses qu'est-ce qui a fait fonctionner, qu'est-ce que les autres écoutent, puis là, tu y vas un peu comme ça, là. Fait que, et ça fonctionne, là, de manière extrêmement surprenante. C'est vraiment surprenant quand tu peux tomber sur un podcast puis d'avoir un succès fou avec celui-là, là. C'est...
Puis comment vous y prenez? Est-ce qu'il y a un code promo qui s'intègre? Est-ce qu'il y a une offre exclusive?
Oui, code promo pour être sur contrat, dans le fond, les ventes qui sont liées au truc. Et c'est comme ça qu'on mesure principalement la conversion qui est générée par le podcast.
Wow! Intéressant. Bon, pour terminer, un conseil que tu aurais à donner à quelqu'un qui doit bâtir une équipe de marketing numérique demain matin, qui vient d'un milieu un petit peu plus traditionnel. Donc, essentiellement, toi, il y a un an et demi de ça, quel serait le conseil que tu donnerais à cette personne?
Si tu me permets, j'en ai plusieurs.
Écoute, on va tous les écouter.
La première chose, c'est « dive in with both feet ». Donc, l'idée, c'est d'aller acquérir rapidement les connaissances pour gérer une business 100% en ligne. Fait que peut-être que ça va demander énormément de travail. Fait que là, je dirais, tu sais, c'est pas la période que tu regardes ton work-life balance. Il faut vraiment mettre les bouchées doubles. Puis ça, c'est la première chose. Comprendre c'est quoi les implications, c'est quoi du growth marketing, c'est quoi du performance, c'est quoi les stratégies d'acquisition en ligne, les canaux, comment ça marche les affiliate marketing. C'est hyper important. Pour moi, c'est la priorité numéro un. Et c'est de, quand il y a des zones de turbulence comme ça, c'est vraiment d'arriver à se sortir des opérations puis du train quotidien, prendre un step back. C'est difficile, mais c'est vraiment crucial parce que c'est la fondation solide pour faire son virage en tant que marketeur plus numérique. Deuxième des choses, c'est d'analyser. Donc, tout analyser, regarder ses chiffres, vraiment regarder ça, mais prendre des décisions difficiles rapidement. Donc, j'ai utilisé à la fois les chiffres, mon intuition, mais c'est de s'adapter au contexte concurrentiel, de vraiment, de pas avoir peur de prendre des grosses décisions. Troisièmement, ne pas sous-estimer l'impact de la culture, surtout quand on est une équipe qui est en télétravail, donc 100% remote à travers le Canada. Quand il y a des grosses turbulences comme ça, c'est des gens à Vancouver, à Toronto, à Québec, c'est important là, tu sais, qu'on se trouve. Puis malgré les turbulences, malgré l'intensité, c'est vraiment pas à sous-estimer parce que c'est ça qui va faire la force de l'équipe. Accepter que tout ne sera pas parfait. Un startup, pour moi, c'est qui vient de la grosse entreprise aussi. Ça a été un peu un conseil que j'aurais aimé avoir, de se dire, OK, ça, c'est correct, là, puis c'est pas obligé d'être parfait. C'est pas grave, là, fonce. C'est pas grave que ce soit 100% parfait, mais continue à avancer puis à livrer des petits changements incrémentaux à chaque jour, puis arrête pas. Quatrièmement, le focus. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Il y a de la croissance et les opérations, beaucoup de choses. Ma mentor, Caroline Roy, qui est maintenant vice-présidente numérique à la Banque nationale, m'a dit quelque chose qui m'a vraiment résonné dans cette période-là difficile. Elle m'a dit, regarde, toi, ta job, là, c'est de rentrer des clients, focus là-dessus, puis ne laisse-toi pas disturb par tout le bruit qu'il va y avoir autour. Reste focus sur ton objectif. Puis finalement, ben un peu en lien avec ça, ben c'est de s'entourer. C'est de s'entourer d'experts qui sont en numérique, d'autres leaders aussi qui sont dans la même situation que toi, où est-ce que tu as un safe space, que tu peux échanger, partager, bouncer des difficultés au quotidien. C'est super important. Puis c'est vraiment ça qui fait que c'est plus le fun et que tu en sors plus fort aussi à la fin.
Fascinant, Pénélope. Je te remercie beaucoup. C'est totalement intéressant de t'avoir écouté aujourd'hui. Ça donne une perspective différente de ce qu'on a pu avoir sur le podcast depuis le début. Et je pense que c'est donc important parce qu'effectivement, il va y avoir dans votre carrière de marketeur, de directeur marketing, des millions de changements. Là, on parle aujourd'hui de traditionnel à numérique, mais ultimement, on va changer dans d'autres types de dynamiques qui vont s'intégrer.
Intelligence artificielle, ça s'en vient.
L'intelligence artificielle, il y a Apple qui lançait leur casque,
oui.
leur headset de réalité virtuelle il y a quelques semaines de ça. On peut penser que d'ici 5 à 10 ans, il y a de la publicité qui va s'intégrer à travers tout ça. Comment Absolument. Que nous, en tant que marketeurs, on se positionne? Donc, on doit être conscient que les pivots, les changements, c'est quelque chose qui va se passer de manière constante à tous les 5 à 7 ans. Donc, si on n'a pas une infrastructure pour embarquer dans ces changements-là, on risque d'avoir des difficultés. Je pense que c'est exactement ce que tu nous as livré aujourd'hui. C'est une approche, c'est une analyse de la situation qui va pouvoir, je l'espère, permettre à des gens qui nous écoutent aujourd'hui de pouvoir faire des pivots de la sorte. Si on veut en apprendre plus sur vous, Pénélope, meilleur endroit pour vous rejoindre chez Oxio?
Sur LinkedIn, vous pouvez LinkedIn. Me contacter ou aller sur le site de oxio.ca si vous voulez aussi essayer. Premier mois gratuit. Essayez-nous.
Parfait. Bon, on mettra des liens dans les notes de l'épisode. Pénélope, je te remercie beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commercer.